Bonsoir, bienvenue dans La Cour des Grands, l'émission francophone qui s'adresse aux parents, mais pas uniquement. Ici Estelle, heureuse d'être dans les studios de Choc FM avec une équipe de choc. Et je vais les laisser se présenter tout seuls.
Bonjour, moi c'est Diana, enseignante. Je vous promets de vous dire la vérité, rien que la vérité.
Bonsoir, moi c'est Serge et je serai le papa de la bande qui va vous donner tous les petits trucs pour gérer comme un chef le rôle de papa. Mes compétences ? J'ai 4 enfants.
Bonsoir, c'est Madigan et j'apporterai un peu de lumière à vos pensées.
Bonsoir et bienvenue dans la Cour des Grands. Vous êtes sur les ondes de Choc FM, la seule radio communautaire de Toronto 100% francophone. Alors, les filles qui sont avec moi ce soir, bon, il y a Diana.
Allô, Estelle.
Bonsoir Serge.
Ça va bien?
Un peu enroué moi.
Bon. Ah oui, ça va.
J'espère que ça va aller.
C'est le mois de février, il fait froid, c'est normal.
C'est ça. Ah oui, il
et
fait
qui
froid.
Dit mois de février dit aussi le mois de l'histoire des Noirs.
Oui.
C'est ce dont on va parler. En fait, comme chaque année, les Canadiens sont conviés à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs, ce d'hier et d'aujourd'hui. Puis, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées dans Toronto depuis une bonne quinzaine de jours maintenant. Mais est-ce qu'il y a une vraie conscientisation du problème? On fête ça, on s'amuse, mais
on célèbre, ouais.
Voilà, on voulait effectivement peut-être parler de ça dans l'émission et voir effectivement. Mais donc, comme vous l'aurez compris, chers auditeurs, le thème de ce soir, c'est la place de la communauté noire dans une société canadienne et aussi dans la salle de classe, puisque on est dans la cour des grands.
Oui. Mais tu dis c'est le mois des Noirs, donc je comprends effectivement le mois de février, on a envie de parler de ce thème, mais je crois quand même, Serge, que toi, t'avais ta petite idée derrière l'oreille. Parce que t'avais une raison vraiment particulière de faire ce thème ce soir.
Tu lis dans mes pensées, ma chère Estelle. En fait, je suis un gros adepte des médias sociaux et puis il y avait une maman qui a écrit sur un média sociaux en septembre pendant qu'on fêtait le drapeau franco-ontarien. Elle parlait d'une conversation qu'elle a avec son fils. Et puis elle parlait des franco-ontariens et tout dit quanti. Puis son fils tout d'un coup lui dit mais moi je suis pas franco-ontarien. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, si dans tous les livres que j'ai à l'école, il n'y en a aucun qui est noir.
Oh, wow.
Et lui, donc, c'est un petit garçon métis, et donc il ne se représentait pas là-dedans. Donc le fait qu'il se sente exclu, j'ai dit, tiens, ça peut être, et je lui ai proposé, ça peut être une bonne chose, parce qu'on n'arrête pas de promouvoir le multiculturalisme dans les écoles, mais est-ce que c'est vraiment le cas sur le terrain? Qu'est-ce que t'en penses, Diana, toi?
Alors,
toi qui es sur le terrain tout le temps.
C'est ça. Donc, sur le terrain, donc oui, c'est souligné. On peut comprendre qu'il y a un budget aussi qui est attribué pour ces activités-là en lien. Bon, c'est sûr, le budget, c'est le budget, mais c'est quand même là. Maintenant, pour les activités en classe. Donc, cette année, je suis dans une école qui, quand même, le font d'une manière... quel mot que je pourrais dire? Quand même active.
D'accord.
Pourquoi? Parce que le matin, par exemple, on met de la musique d'origine africaine. Les élèves aiment ça. Et c'est sûrement dû au fait que non seulement il y a beaucoup d'enseignants noirs et beaucoup d'élèves noirs. Donc, on n'a pas le choix. D'ailleurs, j'aime le fait qu'on accentue le mois de l'histoire des Noirs à cette école. Pourquoi? Parce que des fois, dans certaines autres écoles, on a vu que c'était la journée multiculturelle. Mmh. Donc là, maintenant, est-ce que c'est mauvais? Non, dans le sens que oui, c'est inclusif. Maintenant, quand qu'on passe à côté de l'historique, qu'on explique même pas aux élèves qu'est-ce qui s'est passé et le pourquoi. Ouais. Et on sait qu'il y a même des adultes qui savent pas pourquoi. Je vous raconte une petite anecdote là. J'espère qu'on m'écoute.
Vas-y,
pas,
non, non.
C'est une petite anecdote
qui s'est passée. Non, mais.
Au fait, j'ai une collègue qui disait, c'est le mois de l'histoire des Noirs, pourquoi pas le mois de l'histoire de son origine à elle. Donc, je m'abstiens de...
Très bien.
Voilà. Et là, ça m'a travaillé un peu. Et dans le sens que pas émotionnellement, mais juste, voilà, pourquoi qu'elle aurait dit une remarque comme ça, tu sais, dans l'idée comme ça. Et puis, voilà que je vais la voir, je lui dis, écoute, tu sais que c'est pas les Noirs qui ont demandé ce mois-là, hein? J'ai dit, comme la minute de silence après la guerre, le 11 septembre et tout ça, je veux dire, c'est des faits historiques. Donc là, on a consacré ce mois-ci pour un effet historique. Et je lui ai fait voir aussi, j'ai dit, écoute, à part le peuple autochtone, est-ce qu'on pourrait me nommer un autre peuple qui a autant souffert? Je veux dire, même le grand Gandhi, qu'on aime bien son histoire, que moi-même, j'apprécie le geste qu'il a fait. Mais là, quand on regarde plus profondément dans son histoire, on voit qu'en Afrique du Sud, lorsqu'il y avait les entrées de Noirs ou de Blancs, et de Chinois d'ailleurs, il a dit non, les Indiens, on rentra pas par la même porte que les Noirs. Donc, on voit que c'est un peuple, malgré jusqu'à nos jours, c'est oui, il y a les opportunités et tout, mais je me dis souligner un mois... Pour les Noirs, je veux dire, ça fait partie de... C'est une histoire de l'humanité qui, d'ailleurs, a ses répercussions. Est-ce qu'il y a encore des... Comment je pourrais vous dire? Des conséquences, des séquelles.
Tout à fait. Hein? Oui.
Voilà. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, très intéressant, là, que tu parles, justement, que tu fasses une différence avec le terme multiculturalisme. Et c'est vrai qu'il y a un vrai débat entre la théorie, quoi, ce qu'on apprend, et puis en pratique, qu'est-ce que ça recouvre exactement, le terme de multiculturel. Donc, je trouve que, oui, la pédagogie culturelle, moi, j'y adhère vraiment. Je trouve que c'est très, très intéressant. Oui, oui. Après, il faut savoir qu'est-ce que ça recouvre réellement dans la salle de classe.
Bon, il y a c'est pas que je vais aller de la gauche, mais si on reste dans le contexte multiculturel et les ressources que on a à l'école, elles sont minimes.
Ouais.
Et puis d'autant plus que maintenant qu'on peut pas vraiment parler de religion, vous savez que ça ajoute tellement un gros morceau lorsqu'on parle de culture. Là maintenant, ça vient je me souviens, avant, il y avait les sciences religieuses. Donc là, ici, je pouvais parler de c'est quoi les hindous. Là, je pourrais rentrer un peu dans la culture. Je pouvais parler, mais là, autre que les Amérindiens, qu'on peut parler de les mille et un dieux. Maintenant, on voit qu'il y a quand même une sorte de résistance, de les ressources aussi. Bon, là, on en trouve quelques-unes, mais pas grandes. Mais avant, il y avait des manuels où est-ce qu'on disait, voilà l'histoire de Amari qui vient
de l'Inde. Mais c'est vrai que c'est très délicat parce qu'une religion, c'est une croyance. Donc, comment la présenter comme une science, c'est toujours difficile. Quelle histoire tu vas raconter, comment tu vas l'interpréter, c'est difficile. Il y a des faits. Alors, est-ce que c'est vraiment des faits historiques? Est-ce que c'est des faits? Enfin, tu vois, c'est toujours délicat.
C'est délicat, mais ça nous permettait de faire le bon lien avec, justement, ça fait partie des cultures. Oui, c'est vrai que maintenant, rendu au Canada, je veux dire, moi-même, je suis d'origine haïtienne. Il y en a qui suivent plus rien de la culture, même religion, c'est encore en souffrance, voyez un peu. Donc, on voit que oui, c'est vrai que quand on est dans un pays ouvert, oui, c'est vrai que, bon, il y a certaines générations, moi, je suis quand même née au Canada, donc j'ai beaucoup d'amis quand même qui décident de, non, moi, culture et religion, je mets ça de côté. Mais maintenant, rendu à un certain âge, les adultes, lorsqu'ils veulent justement faire part de leur éducation à leur enfant, oups, là, tu vois, ces mêmes amis-là qui a de ça 5 ans ou 10 ans qui rejetaient, veulent à tout prix, oh mais non, je peux pas les laisser comme ça.
C'est quand même quelque chose d'assez personnel et intime. Oui. Qu'est-ce que tu inclus dans ton identité culturelle? Effectivement, là, toi, tu parles de religion. Est-ce que moi, en tant que, par exemple, de Française, mon identité culturelle, je l'associe forcément à une religion? Est-ce que je l'associe sûrement à une histoire, à un territoire, évidemment?
Oui.
Est-ce que j'assume toute l'histoire de ce territoire? C'est encore une autre, question. Tu vois, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu prends
une culture? Oui, mais c'est quand même, mais si on retourne encore à la culture française, je dois quand même enseigner dans le curriculum que voilà, ces explorateurs, l'Église a joué un rôle. Donc, pourquoi que je veux le laisser quand même dans l'histoire et pas... Donc, je vous dis, c'est sûr que là, maintenant, on pourra pas commencer à aller dans les salles de classe, voir qu'est-ce que l'enseignant dit pas. Mais je pense qu'il faut nous faire confiance, nous les professionnels, dans le sens où ce que si la science religieuse me permettait d'intégrer la culture, donc c'est seulement, je trouve que c'était un bon moyen d'intégrer.
Oui.
Maintenant, il faudrait trouver autre chose. Donc, si je comprends bien l'idée.
C'est
mais
ça
là,
qui...
maintenant, si on ramène le yoga, la méditation, qui sont aussi des sciences basées sur le spirituel, pourquoi pas...
Le spirituel, c'est très difficile de le faire rentrer à l'école.
Oui.
Ça dépend comment tu le fais rentrer aussi, c'est ça.
Voilà.
C'est très, très difficile.
Ça va dépendre de quel...
Donc, c'est pour ça que souvent, la culture, on l'aborde sur un autre aspect, que ce soit la langue, les expressions, la cuisine.
Oui.
C'est pour ça qu'en fait, les activités, c'est plutôt tourné sur ça ou des portraits. de vie, des biographies. Oui. Je crois qu'on va en parler d'ailleurs
biographie.
Et juste, votre conversation me fait réfléchir à quelque chose. C'est intéressant que dans les écoles francophones, on veuille garder la langue comme un héritage culturel très important et garder le français pour les élèves, mais que le côté culturel est un peu laissé de côté, même si on fait très attention à leur culture, mais on va pas forcément cultiver cette culture-là.
Non,
mais il y a tellement, en fait, parce que 62 pays francophones, donc après ça amène beaucoup de cultures différentes.
Ah, oui.
Mais on devrait quand même garder peut-être des choses de base entre guillemets qui nous permettent de.
Tellement encore à travailler. Je vous partage mon sujet de bac justement. On avait fait moi et les étudiants avec qui je travaillais là qui sont déjà sont rendus des amis maintenant. On avait fait 911 allophone. Donc pour dire que voilà le tu sais le code pour justement savoir que lorsqu'on a un élève qui vient d'ailleurs, voilà comment même l'enseigner. Donc, peut-être faire des centres d'apprentissage quand l'enfant est même pas habitué encore à la façon souple avec laquelle je l'enseigne, que c'était rigide, là, c'est le mettre dans une jungle. Vous voyez un peu? Mais on prend pas connaissance. Bon, dans l'école où ce que je vais, il y a quand même le programme PANA, que j'aime beaucoup parce que, bon, je l'ai découvert à l'école où ce que je suis présentement,
Pour les nouveaux arrivants,
voilà.
Je précise parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas l'abréviation.
Voilà. Oui, merci, c'est vrai.
Programme d'accueil des nouveaux arrivants.
Oui, exactement, merci. Donc, il y a quand même du progrès. Il y a du progrès, on peut pas le nier, mais est-ce que c'est rendu vraiment ce que l'enfant justement qui se dit mais écoute, je me vois pas dans les manuels, on parle du cellulaire quand je regarde les emojis là comme qu'on appelle, il y a presque tout de noir, maintenant on voit que ça augmente, mais il y a toujours pas encore la famille noire. Qu'il y a une question pourquoi je voulais même peut-être partir une page Facebook pour ça, mais après je me suis dit non.
ça va te venir, mais c'est vrai
il y a oui, il y a tout. Alors, on pourrait vérifier là maintenant, mais pas la famille noire. Donc, il y a la fille, le gars et tout, mais la famille, non. Non. Alors, quand tu regardes, la seule option. Donc, on se dit, est-ce que c'est fait exprès? On le sait jamais. Mmh. Alors, voilà.
Mais, en tout cas, ça n'a pas été pensé à la base comme ça.
Voilà.
Ça, c'est toujours...
Mais merci pour cette petite anecdote déjà, Diana. Est-ce que, par rapport aux anecdotes, Estelle, tu voudrais nous partager peut-être ta personnalité noire qui t'inspire le plus?
Alors, non, parce qu'on parlait des personnalités noires. Et puis, il y a toujours une difficulté en salle de classe, c'est trouver des personnalités noires canadiennes. Parce que quand on parle de l'histoire des Noirs, on parle souvent de l'histoire des Noirs aux États-Unis.
Américaine.
Des fois, Nelson Mandela, quand même, heureusement.
Oui, c'est ça, voilà.
Des fois, mais c'est toujours les mêmes.
Oui.
Et pourtant, honnêtement, si tu fais un peu de recherche sur le site du ministère qui promeut, en fait, l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs, tu peux trouver des portraits de Canadiens. Et je voulais vous en partager un. Alors, maintenant, peut-être, ou plus tard.
Vas-y, je t'en prie,
okay.
Alors, c'est une femme, bien sûr.
Oui.
Et elle s'appelle Viola
Desmond.
Tu la connais?
Oui.
Ah, voilà.
Oui,
elle va être sur les billets, de 20 ou de 10 bientôt.
Oui, en fait, elle voulait donc assister à une séance de cinéma pendant que sa voiture se faisait réparer. C'était dans les années 50. Et puis, elle a décidé de pas aller dans la section réservée pour les Noirs, mais d'être vraiment dans le parterre avec les Blancs. Et on l'a condamnée à 30 jours de prison et à une amende. Et puis, elle a décidé quand même de contester sa décision. Et puis, ça a été confirmé par la Cour suprême. Et c'est que en 2010 que finalement parce qu'elle venait d'Halifax, que la Nouvelle-Écosse a décidé de lui accorder le pardon en plus même le terme est terrible je trouve mais voilà. J'aime beaucoup cette histoire.
Et elle est très populaire de plus en plus maintenant parce qu'elle va venir sur les billets de 20 ou les billets de 10, très très bientôt. Intéressant. Merci pour cette anecdote, mes chères dames et collaboratrices. On va passer une petite pause musicale et on enchaîne après avec la place de la communauté noire dans la société et dans les salles de classe. À tout de suite. Vous êtes toujours dans la cour des grands, la super émission de Choc FM 105.1. Et ce soir, on aborde le thème de du mois de l'histoire des Noirs sur les communautés noires dans la société canadienne et dans les salles de classe. Et on sait que depuis un petit bout de temps, donc les Noirs vivent au Canada depuis les débuts de la colonisation transatlantique, bien que très peu d'entre eux soient arrivés directement de leur terre ancestrale, finalement, sur le continent africain. Le terme afro-canadien devient de plus en plus populaire au cours des années 90. On a parlé tout à l'heure du terme multiculturel qui est complètement galvaudé. Là, c'est pareil. L'afro-canadien est un peu galvaudé puisque on se rend compte que beaucoup sont arrivés soit des États-Unis, soit des Caraïbes, dans une grande partie, et qu'il n'y a pas forcément énormément de temps que ça qui arrive de l'Afrique. Mais les premiers arrivants sont des esclaves amenés de la Nouvelle-Angleterre ou des Antilles, comme je viens de dire. D'après mes recherches, de 1763 à 1865, la plupart des Noirs qui émigrent au Canada fuient l'esclavage qui sévit aux États-Unis. Et jusque dans les années 60, au moment où un grand nombre d'Antillais commencent à arriver, c'est surtout des États-Unis que viennent les immigrants noirs. Aujourd'hui, les Noirs représentent environ 2% de la population canadienne. Donc ça peut paraître plus grand que ça, mais finalement c'est que 2%. Et donc il y a un grand travail de sensibilisation à faire autour de ce sujet et de cet amalgame. Je crois que cette chère Diana voulait rajouter quelque chose là-dessus.
Oui. Alors c'est ça, c'est toujours entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ouais. Hein? Alors il y a toujours cette différence-là. Donc j'ai une petite anecdote aussi par rapport à l'arrivée des Noirs ici au Canada. J'ai rencontré une dame avec qui j'ai collaboré. Donc, au fait, elle est directrice d'une chorale et puis elle est aussi enseignante à York University.
D'accord.
Et puis, en la regardant, bon, des fois, surtout, j'ai découvert beaucoup d'autres Noirs de d'autres origines, hein, des Saint Kitts, des endroits que je connaissais pas nécessairement, mais mm-hmm. je suis comme, oh, wow! Bon, c'est sûr, on connaissait Guadeloupe, Martinique parce que c'est semblable à l'Haïti. Mais ici, je la rencontre puis j'ai dit, bon, t'es sûrement jamaïcaine, et elle me dit non, je suis canadienne. Donc, elle, lorsqu'elle allait jusqu'à... Elle a connu sa grand-mère. Donc, on parle d'une dame qui a sûrement... là, je ne veux pas la vieillir, mais tu sais, je comprends qu'elle a des enfants de mon âge ou même plus vieux. Donc, elle a facilement 55 en montant. Donc, voilà que sa grand-mère est encore en vie et qui me dit que justement, écoute, ma grand-mère est au Canada, ma mère est née au Canada, donc elles avaient aucune façon de retracer d'où ce qu'elle venait. Donc elle s'est carrément approprié le terme, écoute, moi je suis canadienne. Maintenant,
mais canadienne ou afro-canadienne? Comment elle se considère?
Non, mais elle se présente comme canadienne. Donc elle est de l'Ontario. Donc, on comprend aussi que c'est une des provinces qui a justement aboli la loi contre l'esclavage. C'est la première province ici, tu sais, au Canada. Donc, bon, je sais pas si c'est ça les faits. Et aussi, je peux vous dire, pour avoir changé de province, tout honnêtement, qu'ici en Ontario, c'est moins prononcé. Vous voyez, beaucoup moins prononcé que dans la province d'où je viens.
Qu'est-ce qui est bien prononcé? Pardon, j'ai pas compris.
L'acceptation des Noirs. Donc, dans le sens D'accord. que je suis née au Québec, Montréal, pour être plus précise, mais le nombre de fois que je me suis fait dire « Tu viens d'où? » Je me dis, mais OK, bon, OK, mais c'est quoi la nécessité? Tu sais, on peut se le demander. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais là, quand que c'est demandé et que le point suit ta réponse, tu te dis, ah, OK. Bon, là, en grandissant, on comprend un peu le tout. Juste encore pour vous dire, je travaillais. Une maman est venue, une maman bénévole, puis elle m'a dit, ah, tu viens d'où? Je dis, ah, mais je viens de Montréal. Elle me dit, non, tu viens d'où? Là, j'ai compris, j'ai dit, ah, toi, tu viens du Québec. Elle a commencé à me regarder, j'ai dit, ah non, c'est certain, parce que ça fait 6 ans que je suis ici en Ontario, puis on me Personne l'a pas demandé, pas demandé ouais. vous voyez un peu, ou sinon on va même me dire, bon, je me suis même fait traiter pour la première fois de ma vie de Québécoise ici en Ontario.
Ah, ah oui, c'est
Donc,
possible
là,
ça.
Donc c'est, j'étais choquée, là, je vais pas vous mentir.
Mais parce oui, parce que c'est un terme... l'accent franco-ontarien est bien différent aussi.
Oui, évidemment, évidemment, non, je l'ai accepté, voyons, là, écoute, on sait que l'environnement a un impact sur soi-même, je pourrais pas dire, si j'arrive en Haïti aussi, on verra que...
Bien sûr
que je viens d'ailleurs, tu vois, mais c'est tout ce, hein, comme on dit là, cette amalgame,
ouais, tout à fait.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Donc non, mais c'est ça, c'était
mais c'est encore, entre guillemets, c'est mieux qu'ils disent ça plutôt que dire ah ouais toi tu viens de et puis non bah non assumer directement que tu viens d'un pays
c'est l'objectif peu importe la question posée, je veux dire, si on se parle puis on veut savoir, tu vois, OK, mais si on est deux étrangers, je me dis, avant de me demander ça, il y a tellement d'autres questions, vous voyez un peu. Donc, c'est juste quand tu sens que la question est faite pour te...
Je pense que ce qu'il dit, Serge, et qui nous arrive à tous, c'est de faire des... Enfin, d'avoir des préjugés, finalement, de faire des conclusions un peu hâtives. Moi, je me rappelle d'une amie de ma fille qui était venue à un anniversaire, puis elle s'appelait Samia, je crois, ou je sais plus. Et puis, elle avait la peau mate. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, ben, son prénom doit venir... tu vois, j'avais déjà identifié un pays. Et puis, finalement, je lui dis, ah, il vient d'où ton prénom? Il est bien joli. Puis, elle me dit, Norvège. Sa maman effectivement était voilà d'un pays nordique et puis son papa était indien, donc rien à voir avec ce que j'avais pu supposer.
Mais ça c'est le charme à Toronto.
Oui, c'est ça qui est génial. Du coup, ça enlève effectivement peut-être plus facilement tout ce genre de questionnement et de barrières parce que de toute façon on est tous tellement mélangés que tu peux, comme tu dis, plus retracer.
Non, c'est ça.
Et finalement on se redéfinit, alors d'où la pédagogie culturelle, d'essayer de faire en sorte qu'on se sente tous franco-ontariens, peu importe ton origine.
Oui, alors moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette communauté noire qui a décidé justement à Toronto, parce qu'au Québec ça n'a pas marché, d'ouvrir ces écoles-là pour noirs seulement?
Oui, c'est ça.
Parce
c'est
que
clair.
Ça, c'est
ouvert. Ça s'est ouvert en 2009, du côté de dans l'est de Toronto, si je me trompe pas.
Oui, oui, oui.
Il y a apparemment des différents personnes qui sont d'accord et d'autres qui sont pas très d'accord. Il y en a qui disent que ça permet effectivement à la population noire de mieux se retrouver et de mieux s'identifier entre eux et peut-être d'avoir de meilleurs résultats scolaires. Parce qu'en fait, si on regarde les statistiques, il y a beaucoup de décrochage scolaire parmi la communauté noire plus que
les autres communautés.
C'est une statistique qui est comme ça.
Est-ce que le fait d'être dans ta communauté, ça, c'est vrai que ça favorise ou pas tes chances de réussite scolaire?
Les gens qui sont pour, ils disent que on va prendre des exemples de cette communauté-là et ça va tirer les élèves vers le haut parce qu'ils vont montrer que des gens de cette communauté vont pouvoir réussir. Tu vois, par exemple, ils disent ils suivent le même curriculum, mais par exemple ils vont mettre l'accent sur l'histoire et la littérature des peuples noirs. Le contenu va des grands empires à l'Afrique de l'Ouest aux leaders afro-américains d'un comics, des romanciers noirs, aux rappeurs américains, et même en mathématiques, ils disent par exemple les pyramides d'Égypte peuvent être prises effectivement comme des exemples d'inspiration ou comme des choses qui viennent d'Afrique en fait.
Mais c'est vrai que c'est assez intéressant ce que tu dis parce qu'on se rend pas compte quand on est dans la culture dominante que des fois l'histoire, les manuels, la façon de s'exprimer et tout, parce que c'est culturel. Tu prends tes références et ça ne correspond pas du tout aux références de tout. Et c'est ça qu'on essaie quand même de faire dans l'Ontario, effectivement, à plein de niveaux, pour donner un éventail, pour que déjà l'élève, il y ait un lien avec son vécu. Alors c'est vrai qu'il faut des références canadiennes parce que de toute façon il vit au Canada et il doit aussi apprendre la culture dans laquelle et dans l'environnement dans lequel il va être. Donc ça tu peux pas non plus complètement l'occulter je pense. Mais c'est quand même intéressant de voir, ça nous permet quand même de nous confronter à une réalité que tu ne réalises pas quand toi tu fais partie de la communauté dominante, que effectivement tu écris tes manuels ou tu as un enseignement qui correspond à ta référence.
Oui, c'est ça.
Mais encore une fois, et pour revenir à ce que disait Diana tout à l'heure, parler effectivement de la culture africaine à ces gens de communauté noire peut aussi être créer un autre amalgame parce que, comme disait Diana, pour elle, Diana, elle est québécoise. D'abord, elle n'est pas haïtienne. Effectivement, mettre des gens de communauté noire ensemble et leur parler que de la culture africaine ou carabéenne, ils vont se dire, mais c'est pas moi, puisque moi je suis canadien, je suis québécois, je suis. Donc il y a ça aussi à faire attention. Bon, maintenant, c'est effectivement leurs ancêtres qui ont amené beaucoup de choses et qui ont amené des richesses. Et c'est de ça donc
oui, c'est les références culturelles.
Bon, maintenant, c'est de se demander. Bon, écoutez, je vais pas vous mentir. Bon, moi, Diana la Québécoise, ça me fait encore graisser les dents. Mais c'est pas. Donc, c'est de comprendre que malgré que l'histoire reste de base, dans le sens où ce que peu importe la communauté, peu importe ton origine, les conséquences de l'histoire ont été sur chacun des peuples. Vous voyez ce que oui, je veux dire? Qu'on a été des Antilles, qu'on a été... Donc, c'est toujours de savoir comment présenter la chose. C'est vrai que si, par exemple, j'arrive, je parle seulement de je sais pas, moi, Nelson Mandela, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai présenté ce personnage-là à mes élèves. C'est un des rares textes, d'ailleurs, que j'ai trouvé aussi à présenter, hein, que je pouvais enseigner aussi en même temps. Bon, aux États-Unis, il y en a plein, mais ici, dans ce qui est de ressources francophones, il manque encore. Il y en a un peu ici et là, mais il n'y a rien d'officiel où ce que moi, en tant que prof noir ou prof point, je me dis, ah oui, ça, je sais que c'est une ressource qui existe. Il faut que j'aille l'apprendre. Donc, bon, c'est à aux chers auditeurs, là, si jamais il y a des écrivains.
Il n'y a pas forcément le temps non plus de trouver, de
mais
chercher.
Mais c'est ça, voilà, voilà. Donc, mais ce serait quand même de faire la promotion de ça. À Montréal, on voit que ça se parle un peu plus. Mais ici, à Toronto, bon, si tu n'es pas dans la communauté dominante, qui est la communauté anglophone, c'est un petit peu, un peu difficile. Mais où ce que je voulais revenir avec le point de Estelle, c'est que peu importe, apprendre l'histoire du Canada, est-ce que ça m'a servi, moi, en tant qu'adulte? Non. Il y a tellement de besoins criants. Vous voyez ce que je veux dire? Et un des besoins criants que je peux pointer tout de suite là, c'est par rapport à mon Dieu, c'est le mot anglais qui me sort, l'estime de soi. J'ai trouvé mon mot français. L'estime de soi. Donc, comme que je disais auparavant, que je disais à ma collègue, je dis, écoutez, pour que tu regardes qu'un peuple, parce que moi, je peux pas, même si tu me dis tu viens d'où, je veux dire, la couleur de ma peau te dit déjà, hein, dit à tous déjà que voilà, je suis noire. Donc, on peut rien faire pour ça, mais c'est quelque chose auquel que les enfants, même si qu'ils veulent se dire québécois.
C'est très bien.
Oui, non, mais c'est très bien.
L'expression,
Mais même si dire, que de dire, par exemple, que, un noir qui pense qu'il est québécois, là, parce que je suis obligée de vous le dire comme ça, parce que le Québécois veut pas emprunter le terme, hein, il veut pas. Peut-être il y en a certains qui veulent, mais de ce que j'ai grandi, j'ai pas connu ça. Et moi, j'ai eu la chance, même si que c'était pas officiellement afrocentrique, d'avoir été dans une école avec ma communauté. Et d'accord. Je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, du primaire jusqu'au secondaire, c'était un choix vraiment étudié de mes parents et d'ailleurs des parents de ces autres élèves-là. Donc, écoutez, s'il y avait un Québécois de souche sur une classe de 25, ça, c'était deux.
Alors, pourquoi tu dis que c'est difficile de se considérer québécois, alors, tu disais tout à l'heure?
C'est difficile parce que c'est un terme qui t'a jamais été donné.
Donné par les autres.
D'accord,
vous voyez un peu,
d'accord.
Donc je peux comprendre que oui, j'aime la poutine comme les autres Québécois. Peut-être l'accent pour... j'ai pas eu le choix dans le sens que c'est tout ce que j'ai entendu.
Mais si je t'ai bien entendu, quand tu dis tu viens d'où, tu dis du Québec quand même.
Non, j'ai dit que la première fois que j'ai entendu que t'es québécois, c'était ici à Toronto.
D'accord, ok.
Mais
d'accord,
moi, c'est pas encore un réflexe.
D'accord, ok.
Là, après
oui, c'est vrai
32
que pourtant,
ans,
pour moi, t'es québécoise.
Non, mais c'est ça. Mais pour
c'est
moi,
drôle.
Non. Mais je le comprends. Vous me suivez bien. Dans le sens que si j'ai plusieurs collègues, de différentes cultures, c'est sûr que j'ai
Tu vas plutôt parler de tes racines, peut-être.
Oui, mes origines haïtiennes, parce que c'est ce que je mange et tout. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Montréal. Tu sais, ceux qui me l'entendent, ouais, toi, t'étais à Montréal. Donc, c'est une ville que j'aime beaucoup. Vous voyez un peu, donc, mes expériences aussi, l'accent, je peux pas le retirer. Vous voyez,
c'est
là.
Ça fait partie de ton identité.
Voilà, ça fait partie de mon identité.
En fait, le problème, c'est ça. C'est pas un problème, c'est même une richesse. C'est qu'on a des identités plurielles. Et
voilà.
Après, c'est savoir comment les transmettre.
Mais
il y a un truc qui est important, ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Parce que qui dit identité plurielle dit multiculturalisme.
Voilà.
Et qui est un peu plus précis à voir. Mais c'est que, c'est arrivé dans la communauté et dans la société de façon normal, il y a eu du métissage, mais la société n'a pas suivi ou l'école n'a pas suivi. Donc il y a encore plein de boulot à faire à ce niveau-là.
C'est-à-dire que
dans les milieux urbains, ça s'est pas mal intégré et il y a encore du travail à faire, mais c'est là. Mais on sort de là, c'est difficile. Quand tu vas à Kitchener et tu viens d'Haïti, on te regarde bizarrement.
Mais c'est encore
moi,
là.
Ou à Québec encore. Mais... c'est ça, c'est qui est une grande ville quand même. Moi, j'ai avec ma femme à Québec.
Oui.
C'est pas c'est si au bout de 20 mètres, elle s'est pas fait regarder 30 fois.
Oui, voilà.
Mais c'est ça. Donc c'est un peu comme les nouveaux métiers qui sont créés et l'école ou les universités sont pas encore prêts à former les étudiants.
Bel exemple.
Parce que voilà, ça va pas assez vite.
Bel exemple.
Mais
c'est pour ça.
Mais il y a des petits pas qui se font.
Oui.
Et ça va de plus en plus.
Oui. Et il faut pas négliger. Et il y a aussi des générations qui se créent. Par exemple, moi, mes parents ne sont pas nés au Québec. Je représente la première génération.
Ouais.
Donc évidemment, mes enfants, qui seront forcément des Franco-Ontariens, eux autres, ils auront mon héritage, voyez un peu, ça commence à, par exemple, Viola Damon, moi, je les connais à l'âge adulte. Est-ce que vous me comprenez?
Ouais,
bon, c'est quand j'ai connu les Martin Luther King et tout.
Voilà.
Mais j'avais pas
de référentiel canadien.
Référentiel canadien. Et encore là, j'essayais de trouver des ressources. Voilà, je l'ai présenté à mes amis quand même sur le site du gouvernement parce qu'elle est là.
Mm-hmm.
Mais bon, tu sais, c'était pas trop pour des enfants, mais bon. Voilà que l'intérêt était là.
Mais tu vois, dans la deuxième partie, on va te parler de pas mal de personnages canadiens.
Oui.
Mais c'est drôle, là, ce que tu disais justement sur la présence, Serge, là, de la population noire dans certaines parties du Canada. Moi, j'ai une anecdote comme ça personnelle où j'ai une amie qui vient des États-Unis, mais ça fait il y a 20 ans de ça, et puis elle arrive à Monaco, quoi, donc sur la Côte d'Azur, et puis je lui dis « Tu aimes bien, tu t'y fais bien, tu te plais ?» Elle me dit « Je me plais, il y a juste un truc qui me manque. » Puis je m'attendais à plein de choses, tu sais, je sais pas moi, les hamburgers, les frites, je sais pas. Et elle me dit, mes copines noires, elle me dit, ici, il n'y a pas de noirs.
Ah,
et j'avais jamais
remarqué ça ou...
Ouais, enfin, le fait qu'elle me fasse cette, tu vois, et puis en plus, c'était vraiment... Ça me manque et j'ai trouvé ça.
Je n'avais jamais remarqué que dans le sud de la France, ça manquait. Mais effectivement.
Non, parce que c'était il y a peut-être 20 ans, c'était à côté de.
C'est vrai, d'accord.
Dans ma classe, effectivement, il y avait une copine, elle était métisse.
Oui.
Sinon, non, t'avais pas de. Oui, maintenant ça a bien changé parce qu'on est quand même très proche de l'Afrique.
Bah oui,
et
ça,
oui, non, c'est sûr.
Oui, avec l'immigration maintenant, ça.
Mais je te dis, ça date, mon anecdote date de 20 ans. Je suis une vieille.
Non, mais c'est comme quoi encore, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui et que la société, c'est une espèce de dinosaure qui met du temps à avancer.
Mais
parfois, elle recule. Parfois, elle fait des amalgames et elle avance.
Et ça, là, c'est même d'où dans la carte qu'on parle de cette histoire.
Ouais,
parce
c'est ça.
Que
on
si
en parle
je
pas.
Parle de Montréal, maintenant, ça va. Je veux dire, ça va beaucoup mieux, même que lorsque j'étais plus jeune. Mais maintenant, bon, écoutez, comme je vous ai dit, moi, j'ai été dans un environnement très sécuritaire où ce qu'on était vraiment, je me souviens, j'ai fait ma maternelle dans une école plus ou moins multiculturelle. Mais là, finalement, c'était comme... écoutez, comme je l'ai dit, deux personnes.
Ouais.
Si je me souviens, c'était Jonathan qui était québécois et puis il y avait Zainab.
Mais c'est
qui
marrant
était,
que tu dises qu'il était québécois, quoi. Moi, ça me.
Mais je pense
c'est
que
fou,
tu vois,
hein?
c'est veut dire quelqu'un qui était blanc, quoi.
Voilà.
Non, mais tu vois, tu t'as pas dit blanc, t'as dit québécois.
Oui,
c'est
ça.
Quand même incroyable.
C'est comme
quoi,
ça. C'est le langage. Non, c'est.
Ouais.
On peut même plus s'en défaire.
Oui, c'est ça.
Je suis le produit du Québec.
Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes et tout. On pourrait en parler des heures et des heures sur ça. Continuons quand même le mois de l'histoire noire, c'est quand même important.
Oui.
Il y a certains acteurs qui ont dit c'est pas la peine d'en faire un seul mois, il faudrait que ce soit l'année entière ou que ce soit tout le temps, on en parle, c'est vrai, mais bon, on fait des petits pas et qu'on y arrive.
Oui.
Je crois qu'en France, ça n'existe pas trop d'ailleurs.
Pas du tout.
Le mois de l'histoire noire, ils connaissent pas du tout, quoi.
Et
tu vois, moi, quand je suis arrivé il y a 16-17 ans, mon premier réflexe, c'était « Ah, Diana, mais toi, t'es d'Haïti, hein !» Et tu sais, mais plein d'erreurs, j'ai fait comme ça, et j'ai perdu des amis, parce que la façon européenne de faire est complètement différente, et on est moins politiquement correct.
Et je voulais dire, quand même, je pense que les Québécois ont peut-être une terminologie comme ça, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils soient forcément... Peut-être que c'est plus culturel, mais c'est pas une mentalité contre les Noirs, ou c'est juste qu'ils sont peut-être moins exposés, ou qu'ils ont été moins habitués culturellement à ce.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Moins tu connais, moins tu as le langage peut-être approprié.
Oui, mais pourquoi
comme il
pas
le dit,
l'effet
Serge.
Inverse.
Mais comme le dit Serge, non? Serge.
Bon,
Serge
moi,
aussi,
si vous me permettez, je dirais non complètement, Estelle. Non, mais je peux pas. Non, je pourrais pas manger les mots. Perçu. Vous voyez un peu. Si on est aux États-Unis, puis il y a encore le Black Lives Matter et toutes ces choses-là, encore en 2017, tu dis, waouh, c'est une question de ressenti. Vous voyez un peu? Donc, tu dis en 2017, avec les médias, je veux dire, le peuple noir a fait ses preuves, je veux dire, le vandalisme est partout, les meurtres sont partout, vous voyez un peu? Donc, tu vois encore que, boum, un policier tue, ah, il sort, il n'y a rien. Mais l'effet inverse, ou vous voyez un peu, donc le sens de l'injustice, le sens de c'est bien de dire toi t'es de Côte d'Ivoire, oh non je suis haïtienne, ok on arrête ça là, mais là quand je te parle de c'est beaucoup plus flagrant, vous voyez ça maintenant en 2017, quelqu'un qui fait, c'est une maladresse. Mais là, maintenant, on parle de plus que de maladresse. Il faut pas cacher, mais c'est vrai que des choses comme ça, le peuple noir est rendu quand même bien informé
que mais ce que je
pour
veux dire,
différencier
c'est que
une maladresse
je,
à
je
une...
pense pas que ce soit propre au Québec, c'est ça que je voulais dire, puisque tu vois, regarde, lui et
non,
moi
non,
on vient
non,
de France
oh,
je
non,
pense
non,
que
non,
tu
non,
pourras
je
trouver
pourrais
des
pas,
Français
écoutez, j'ai des bons amis québécois,
voilà.
Je peux pas dire que c'est propre, mais c'est une majorité, donc on pourrait pas encore dire que c'est pas la majorité, mais c'est le ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas aller faire une statistique.
Non,
mais
ça.
C'est un ressenti.
Et c'est une très très bonne, un très bon mot à utiliser, parce que moi, avant que je connaisse ma femme qui est d'origine éthiopienne, ce ressenti-là, je l'avais pas du tout.
Voilà.
Et je me disais, mais pourquoi il faut qu'il fasse tout un pataquès. Et puis, depuis que je suis avec elle, maintenant une bonne dizaine d'années, je me rends compte effectivement de ça.
Oui.
Parce que...
J'étais pas exposée,
exactement.
Parce que tu ne connaissais pas, tu ne savais même pas, tu n'as eu qu'une pensée dominante dans ton cerveau, dans ton esprit.
Oui.
Donc, je pense pas que ce soit quelque chose de voulu.
Moi, ce que je peux dire, Estelle, c'est que c'est excusé.
OK.
Vous voyez un peu, c'est excusé
jusqu'à
dans le sens que
point.
Bon, écoutez, ben, pour
les préjudices de la police, c'est pas excusé.
Oui, bon, ça c'est une autre chose, parce qu'on parle de
ça,
monde éduqué et tout. Donc là c'est très grave même. Mais maintenant, si je vais dans une ville, je sais pas moi, en Beauce, puis que je comprends qu'ils ont jamais vu noir, je les excuse d'avance.
Ouais, c'est ça.
Mais maintenant c'est par rapport à mon bagage, mais vous voyez ce que je veux dire? Tu dis aussi, écoute, à la télévision, maintenant, je pense que c'est un peu plus présent.
Ouais.
Mais, justement, une petite anecdote, j'étais dans un groupe de danse et j'étais en Beauce. Là, il n'y a pas d'hôtel. Il y a des maisons d'accueil. Donc, j'y vais avec une autre copine, qui est noire aussi. Bon, on dort là-bas, puis là, les enfants viennent, ils frappent à la porte et ils nous ont demandé de toucher notre peau.
Ouais.
Ils ont dit, ils n'ont jamais vu juste à la
ils
télé, mais c'est la
ça,
première fois qu'ils voyaient ça en vrai. Fait que comme, non, c'est ça.
Vous les avez
on n'est pas en chocolat.
Vous les avez payé, non?
On goûte pas le chocolat, c'est la chair aussi. Donc là, ça, c'était excusé, c'était...
Ouais,
c'est
là,
je le raconte, c'était drôle. Oui, en plus, les parents dormaient, se sont assis.
Ah,
oui, fait que là, on a regardé la télé, on s'amusait avec eux.
Parce que là,
oui. C'était tout simplement innocent, puis il faut le comprendre.
Et puis c'est excellent, parce qu'au moins, ils apprennent quelque chose de différent, ils sont curieux, et
absolument,
tant mieux.
Absolument.
Tu vois, ils n'ont pas eu de peur, ils sont venus frapper à ta porte.
Parce que l'ignorance peut apporter la peur, et peut
Écoutez, on sait ce que ça peut créer,
c'est
terrible.
Ça peut créer des présidents des États-Unis.
Hein?
Bon, on ne va pas continuer dessus. Mais bon, on peut en parler des heures et des heures. Merci beaucoup pour ces conversations super intéressantes et sur cette sensibilité à nous et cette haute paire de lunettes qu'on peut porter de temps en temps. On va passer une petite pause musicale. Et puis on va aussi donner des ressources à Diana avec des grandes personnalités canadiennes.
Voilà.
À tout à l'heure après la musique. Vous êtes de retour dans la cour des grands sur Choc FM 105.1. On a beaucoup parlé entre nous pendant la pause musicale.
Il y avait beaucoup
de discussions. C'est un sujet qui tient à cœur à tout le monde et surtout dans la communauté de Toronto. Donc on est très content de parler de ça ce soir avec vous. Et comme vous avez pu comprendre, on aborde le thème, pour ceux qui nous rejoignent, de la communauté noire dans la société canadienne et dans les salles de classe. Alors, j'ai fait des petites recherches un petit peu et puis j'ai sorti une citation de Lawrence Hill, qui est l'auteur du célèbre Book of Negroes, et qui nous dit, il nous pose les questions suivantes. Mm-hmm. Quels sont les Canadiens qui ont lu Dionne Brandt, Afua Cooper et George Eliot Clarke? Qui sait que l'histoire des Canadiens noirs s'étend sur 400 ans et englobe l'esclavage, son abolition, les débuts de la colonisation, la croissance urbaine, la ségrégation, le mouvement des droits civiques et une participation de longue date à la vie sociale? Je trouve ces questions super intéressantes parce que, comme a dit Diana tout à l'heure, on va se référer à des gens des États-Unis, mm-hmm. à des gens d'Afrique du Sud, les Canadiens, on n'a pas trop le temps de les chercher et on ne trouve pas effectivement comme on veut. Donc on va essayer de parler de ça maintenant.
Oui.
Est-ce que donc tout à l'heure on parlait de Viola Desmond. Est-ce que dans vos petites recherches vous avez déjà regarde pas, triche pas. Non, mais...
savoir lesquels tu as pour pas parler des mêmes.
Non, mais c'est pas grave. Si on a les mêmes, c'est très très bien. Okay. Mais
oui.
Avant que je triche,
si on en connaît d'autres au moins.
Avant que je triche et que je vous dise lesquels j'ai trouvé moi, quels sont les vôtres qui vous viennent en tête?
Viola Desmond, c'est sûr qu'elle, oui, elle est venue en tête. Et puis il y a la fameuse Michaëlle Jean, c'est sûr, ouais. Parce qu'elle est haïtienne. Hein, oui. D'origine, non, haïtienne.
Elle est née là-bas.
Oui, c'est sûr.
Et elle est quand même extraordinaire parce qu'elle multicarte.
Elle était la première de tout, quoi. Journaliste, devient la première gouverneure générale du Canada. Et maintenant, elle est la première femme à être la présidente de, comment appelle cette association francophone du mondial, là?
La francophonie.
Oui, de la francophonie.
C'est la francophonie. Et en fait, elle a un centre aussi qui s'appelle le centre Michaëlle Jean pour la francophonie et elle soutient énormément de projets, donc c'est vraiment vraiment intéressant.
Je vous fais tricher.
Il y a Dany Laferrière que j'ai eu la chance de rencontrer, un auteur encore haïtien.
Merci de rencontrer, il est vraiment génial.
Oui, génial, qui a fait des livres quand même avec des titres provocateurs.
Et qui est donc le premier noir canadien à rentrer à l'Académie française.
Oui.
Donc pas mal. Donc voilà, on en a quand même un petit peu.
Non, et puis il faut revenir, faut pas seulement dire le négatif, faut dire que le Québec a laissé une grande place, par exemple à moi de la communauté haïtienne, parce que vous savez que on est beaucoup, surtout à Montréal, donc on représente quand même des cultures qui prédominent là, cette ville-là.
Dans les minorités,
dans les minorités évidemment. Et puis culturelles, voulant dire pas de souche là, mais même au-delà, vous voyez ce que je veux dire, pas seulement de noirs là, mais il y en a beaucoup. Et que justement ils nous ont laissé cette place. Donc il y a même des athlètes. Il y en a un qui est Bruni Serin, qui est connu aussi. Michaëlle Jean.
Que t'as comme autre athlète?
Il y en a un athlète très connu.
Donovan
Bailey, qui a fait briller le Canada, mais c'est vrai. Généralement.
Parce qu'on pense plutôt à Usain Bolt, on pense plutôt à.
Donovan Bailey, c'est mon temps là avec Bruni Serin dans ce temps-là. Avec moi, c'est des noms qui.
Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on pense aux grands personnages nord-américains, nord-canadiens, afro-canadiens, pardon, on va se dire il va nous parler du personnage dans les années 1800, tout ça.
C'est vrai.
Alors qu'il y en a plein quand même
qui sont là.
Regarde, on a parlé de Michaëlle Jean, on a parlé de Donovan Bailey, et je pense que les enfants vont plus se identifier à ces gens-là de notre époque, plutôt que là, par exemple, on a la première femme éditrice noire qui était en 1853, qui s'appelle Marianne Shad Carey, fut la première femme éditrice du journal au Canada, le Provincial Freeman, qu'elle a lancé en 1853. Donc c'est vrai que c'est important de souligner ces gens-là, mais ça reste encore des gens du 19e siècle, c'est ça. Donc les enfants ou dès que
surtout que je pense qu'il doit y avoir des chanteurs, il doit y avoir des artistes, il doit y avoir des acteurs.
Écoute, si on leur présente les Jacques Cartier et tout ça, pourquoi pas
présenter aussi,
ça va accrocher
aussi,
pas la majorité, mais voyons.
Le hockeyeur de Montréal, là, qui doit connaître aussi, Piqué-Souban.
Il est plus de Montréal.
Non, il est plus là-bas, c'est ça.
On l'a chassé. Voilà.
On l'a chassé, effectivement, malheureusement.
Alors, voilà. 2016.
Encore un super exemple de la possibilité effectivement de sortir du lot, mais aussi de la possibilité de se faire écarter un peu trop différent. Mais ça, c'est peut-être autre chose à voir. Mais on va aussi avoir des gens qui rentrent en politique. Donc le premier politicien noir canadien en 1865, il s'appelle Flynn Gibbs, qui est élu conseiller municipal de la ville de Victoria.
Oui.
Donc, je pense pas qu'il y avait beaucoup non plus de population noire là-bas, oui. Parce qu'ils venaient souvent, plus souvent de l'Ouest.
Mais ce qui est drôle, d'ailleurs, quand les populations noires sont venues au Canada pour se libérer de l'esclavage aux États-Unis, ils ont quand même essayé de s'installer loin des populations blanches. Donc ils avaient quand même toujours la crainte, de retourner à leur état d'esclave, que ça puisse changer.
Écoutez, est-ce que ça a vraiment changé, cette crainte-là?
Mm-hmm. Ben, je pense qu'il y a toujours des quartiers où ils vont tous habiter. Tu vas à Scarborough, tu vas dans l'Est, à Etobicoke, voilà. Donc, mais d'un autre côté, c'est aussi pour s'écarter, mais c'est pour se retrouver aussi dans une communauté.
Oui, c'est la communauté, l'entraide. Comme
c'est ce que j'ai
dit, mes parents, justement, la décision de m'avoir inscrite dans une école où ce que j'étais plus avec mes semblables, c'était un moyen de me protéger. Et quand je regarde le produit et de même tous mes amis, on a été comme prêts à être exposés aux autres cultures comme ça.
Ouais.
Tandis que quand je regarde mes autres amis, que j'ai rencontré évidemment à l'université, que eux, ça a été l'effet inverse, parce qu'il y a aussi des parents qui ont pensé de l'autre côté, mais non, je suis au Canada, mon enfant doit. Mais maintenant, rendu à un certain âge, il y a une décision. Qui es-tu? Hein? C'est tout le monde, là, la crise existentielle, tu dis qui es-tu? C'est pour ça que je vous dis, là, maintenant, qui es-tu? Des fois, ça t'est imposé, ça, voyez un peu.
Mais en tout cas, le fait de se regrouper par communauté, ça, c'est courant, même pour les Français
partout,
à Toronto, ils sont tous asianais. Il y a des quartiers qui sont...
Oui. Non, ça, c'est un effet humain. Moi, je le vois comme ça. C'est un effet humain. Maintenant, quand on reprend l'histoire, s'ils se sont éloignés, on comprend qu'il y a des séquelles.
Ouais. Voilà.
Hein, c'est de la même façon. Si moi, je vous dis, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est peut-être qu'il y a eu du progrès. Mais ça s'est passé. Oui, un peu.
Mais je voudrais faire un pont sur ce que vous disiez tout à l'heure. Tu disais qu'il y avait pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de personnalités noires canadiennes auxquelles tu pouvais faire référence à tes enfants.
Oui.
Et là, quand on regarde les noms, finalement, ben, en y réfléchissant, ça nous revient et on les a un peu oubliés. Là, il y a encore Oscar Peterson, qui est super connu ici.
Oui, il y a une salle,
il y a
son nom.
Voilà.
Non, mais c'est pas seulement ça.
Il a quand même fait quelque
chose.
Moi,
les connaître, c'est pas... Je veux dire, on peut les présenter aux élèves, mais je vous parle d'une ressource, par exemple... J'ai trouvé deux textes. J'ai trouvé un sur Martin Luther King, un sur Nelson Mandela, où ce que, tu sais, vous voyez un cahier d'activité.
Donc,
c'est pas nécessairement de les trouver.
Ouais.
Je peux vous dire que je suis riche en culture parce que beaucoup des personnalités qu'on vient de...
Oui, tu veux dire qu'il n'y a pas de matériel pédagogique qui sont...
Ouais.
Je suis assez étonnée parce que...
Mais aux États-Unis, il y en a beaucoup.
OK.
C'est pas qu'il y en a pas, mais ils sont dispersés. Ce serait faux
en
de
fait,
dire qu'il y en a pas.
Tu sais qu'il y a un curriculum pour les pour justement tout ce qui est activité en lien avec la culture autochtone.
Oui.
Il y a même une cellule qui est spécialisée là-dedans.
Autochtones, ça, ils sont très riches.
Et c'est vrai que je m'étais pas posé la question. ce serait à creuser, ça. Est-ce que vraiment il n'y a pas de...
En anglais, en anglais, c'est là. Mm-hmm. Vous voyez, je peux trouver, par exemple, j'ai trouvé Google. J'ai trouvé Martin
T'as
Luther
trouvé
King.
Google.
J'ai
Bravo.
Trouvé Google. J'ai trouvé un texte sur Martin Luther King. J'ai trouvé encore un manuel de mots croisés avec le nom de plusieurs personnalités noires. Donc, c'est pas que je vous dis qu'il y en a pas.
Oui.
Je vous dis officiellement, par exemple, si je voudrais enseigner pour le peuple autochtone, automatiquement, ça vient, là, ça sort, c'est flagrant.
D'accord, ouais.
Donc, je me dis, tant qu'à dédier un mois, le faire comme il faut, je sais pas.
Non,
mais
fait,
en même temps, c'est à moi aussi de parler, d'agir, vous voyez un peu. Donc, c'est à la communauté de se rassembler aussi. Et je peux vous garantir que ça se fait. Donc, je sais très bien, je suis une cordonnière bien chaussée quand même. Alors, en début d'année, j'ai contacté une grande historienne qui est à York University, qui justement me disait que le TDSB travaille déjà sur un matériel pédagogique.
Ouais, j'étais étonnée.
Donc, je me dis, si TDSB le fait, bon,
ça
là,
il
semblerait seulement faire la traduction et tout. Donc, ça s'en vient. Vous voyez un peu.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est quand même...
C'est des petits pas
tu
encore,
dis
hein.
comment ça que...
j'étais pas déjà là.
T'étais pas déjà là, parce que ça fait un bout de temps déjà que le Wellington Noir s'est célébré au Canada.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai que c'est
donc, non, mais c'est juste ça. Mais c'est le manque de ressources aussi, parce que de sources sûres, l'école à Toronto, qui est Afrocentric, oui. Bon, c'est quand même TDSB, mais vous savez que le financement, il est pas le même pour cette école-là que les autres. Vous voyez un peu, donc c'est toujours accepté à condition que, donc tu dis où est cette égalité.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, mais c'est un bon début. Je peux pas, ouais. On peut pas
mais
rien dire.
Ils vont te dire, c'est pas l'égalité qu'il faut, c'est de l'équité.
Ouais, donc,
ils jouent sur les mots. Et puis, voilà, c'est le dessin de trois personnages qui gagnent une palissade. Et puis, il y en a plus petit que l'autre. Et puis, si tu leur donnes la même caisse,
voilà.
Et ben, ils vont pas voir. Il faut donner des caisses différentes par rapport à leur taille.
Mais
pour qu'ils voient par-dessus la palissade.
Voilà.
Mais donc, voilà, bon, c'est pas.
Pourtant, on dit tout le monde a eu trois caisses.
C'est ça, exactement. Mais voilà, c'est encore un sujet super intéressant.
Oh,
je pense
ben
qu'on
oui,
pourra
mais
en parler.
Le positif, c'est que tout va en progressant.
Ouais, exactement.
Donc, franchement, je peux vous dire, moi qui suis née, je suis dans ma trentaine, donc je peux vous dire que le discours que je me permets de maintenir maintenant est pas le même, voilà, déjà 10 ans. Donc,
ah oui?
Oui. Où est-ce que je vois beaucoup plus d'ouverture?
Ça.
Ça commence. Bon, ici à Toronto, oubliez ça, là, la communauté noire est quand même bien, je veux dire, à l'aise. Ils ont pas vécu tout ce que nous, on a vécu, mais
ouais,
on voit que aussi, l'histoire nous dit que
oui,
c'est l'Ontario
ça.
Aussi qui a voyé
tout
un peu.
Fait,
ils ont,
oui,
sont déjà là-bas.
Il y a ouais,
des explications
ouais.
historiques, hein, même.
Mais quand on mettra le lien de l'émission sur Facebook, on pourra demander à nos auditeurs s'ils ont des ressources à partager aussi.
Mais oui, comment
ils parlent ça à leurs enfants, cette dame là qui a eu des soucis avec son enfant qui se reconnaissait pas, donc partager ça avec les auditeurs pour leur donner des ressources
wow.
pour leurs enfants.
Ben oui.
Donc voilà. L'émission se termine.
Oh non, c'est
merci
pas déjà fini.
Merci beaucoup Estelle,
oui.
merci beaucoup Diana.
Merci Serge.
C'était vraiment super intéressant. J'aime bien préparer une émission et puis ça va pas forcément dans la direction que je voulais.
Ah
mais,
désolé.
Mais non mais c'est très bien, on a une super conversation.
Voilà.
Non, parce qu'on aurait pu lire tout le
oui.
déroulé et puis finalement ça aurait
voilà.
été un peu plus plate et là on a une bonne conversation. Même parfois très chaude.
On est des pros,
Donc merci d'avoir été de notre écoute et d'avoir adoré les voix d'Estelle et Diana comme d'habitude. On vous retrouve la semaine prochaine. Jeudi prochain à 19h pour cette fois donc une émission sur l'autorégulation chez les enfants.
Oui.
En attendant, vous pouvez bien sûr comme d'habitude nous écouter en podcast ou en balado diffusion sur le site de chocfm.ca ou en rediffusion le dimanche à partir de 16h. À bientôt, bonne soirée.
Bonne soirée.
Ciao ciao.
L'émission est finie.
Les enfants sont couchés.
Je vous invite donc à rester à l'écoute sur Choc FM.
Quant à moi, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.